pas à l'école qu'on va m'apprendre à changer ma vie.
Comment ça peine, ta vie?
Pas enfin.
Je sais, c'est pas une période facile pour toi. Tu changes, tu grandis, tu te poses des questions. D'ailleurs, faut que je te prenne un rendez-vous avec la gynéco. Et un psy. Tu voudrais pas aller voir un psy?
Bonjour à toutes, bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Nouveaux Chemins qui vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en podcast. Cette année encore, philosophie, cinéma et littérature se croiseront quotidiennement au gré de discussions passionnées, je m'y engage, grâce à des invités passionnants. Et pour relever le défi, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le philosophe Fulcran Tesserin. Invité passionnant s'il en est, bonjour à vous.
Bonjour Delphine Brett.
Aucune pression, rassurez-vous, je vous ai invité en connaissance de cause. À 10h50, nous accueillerons avec bonheur Géraldine Mosna-Savoie, que je remercie d'avoir mené avec tant de brio la barque des Nouveaux Chemins au cours des derniers mois, et que vous continuerez à retrouver tous les jours pour ces 2 minutes papillons qui butineront aujourd'hui le livre de Vili Gianinazzi consacré à André Gortz. Et c'est sous le signe de la jeunesse que nous commençons l'année, ce qui pourrait être une référence à l'âge moyen des collaborateurs de l'émission, mais qui signifie surtout pour nous le désir d'interroger la réalité derrière l'étiquette commode que l'on colle et que l'on lit de plus en plus. Qui sont les jeunes? Sont-ils autre chose que le fantasme de ceux qui sentent bien qu'ils n'en font plus partie? Pointée du doigt par ceux qui l'entourent, la jeunesse s'ignore elle-même et se reconnaît toujours trop tard. Alors, Oscar Wilde et l'éternelle jeunesse de Dorian Gray, demain, la philosophie des âges de la vie, mercredi, et la fin de l'enfance de François Truffaut à Antoine Doinel, telles seront les premières étapes de cette semaine sous le signe de la jeunesse. Fulcran Tesserin, vous êtes l'auteur d'un commentaire du Sophiste de Platon, ainsi que d'un ouvrage sur le rapport entre le langage et les images dans l'œuvre de Platon. Vous êtes également professeur de philosophie au lycée Poincaré de Nancy, mais c'est sur France Culture que vous faites votre rentrée, votre pré-rentrée. Alors, l'intérêt d'interroger les rapports entre Platon et Socrate envers la différence et la jeunesse, c'est que ces liens sont à double sens, c'est-à-dire que Socrate est amoureux de la jeunesse autant que les jeunes gens recherchent la compagnie de Socrate.
Tout à fait, c'est dans un double sens. Dont on pourrait dire néanmoins que c'est d'abord la jeunesse qui en bénéficie aux yeux de Socrate, puisque Socrate prend un malin plaisir, après avoir admiré la beauté des corps des jeunes gens qui l'entourent, prend un malin plaisir à sonder leur âme et à voir si leur âme réponde à ce que la beauté de leur corps annonce. Et Socrate, interroge ces jeunes gens et leur demande ce qu'ils pensent de la vertu, du courage, du bien. Et inévitablement, ces jeunes gens s'entremêlent dans leurs réponses, sont confus, proposent des définitions contradictoires, et du coup, ils sont réfutés. Voilà. Et cette réfutation est une libération, puisque débarrassés de leurs fausses opinions, ils pourront véritablement s'interroger et donc poursuivre le dialogue socratique. Mais voyez, le premier bénéfice de l'entretien socratique, c'est un bénéfice qui se fait au profit de la jeunesse. Elle est libérée de ses fausses opinions par Socrate.
Voilà. Reste à savoir pourquoi c'est la jeunesse en particulier qui est plus propice à l'enseignement socratique, puisque finalement, à tout prendre, on peut se dire que si l'accouchement auquel procède Socrate est efficace, alors il pourrait avoir lieu à tout âge. Vous voulez répondre à
Il y a une réponse ouais. que Socrate donne dans l'Alcibiade. Dans l'Alcibiade, donc dialogue qui est consacré à l'entretien que Socrate a eu avec le personnage de même nom, Alcibiade est réfuté par Socrate et s'aperçoit que la définition qu'il avait donnée de l'art politique est tout à fait mauvaise. Et il est confus d'un tel constat. Et Socrate lui dit « Mais non, tu as 20 ans, c'est bien mieux que si tu en avais 50. Parce que si tu en avais 50, en substance, lui dit-il, ça serait trop tard. » Ça serait trop tard parce que tu constaterais peut-être que Tu n'es pas capable de répondre, mais tu ne ferais pas l'effort pour chercher la bonne réponse. Hein. Après 50 ans, c'est le poids de l'habitude, de la routine hein, qui nous entraîne, alors que la jeunesse est quand même beaucoup plus fraîche, beaucoup plus d'entrain et donc plus d'endurance pour poursuivre le dialogue. En tout cas, c'est ce que laisse entendre Socrate dans cette réplique.
Exactement, c'est ce que laisse entendre Socrate et c'est ce avec quoi un certain Calliclès est en désaccord dans un autre texte platonicien qui s'intitule Le Gorgias. Calliclès qui semble dire que finalement la philosophie, c'est utile, c'est peut-être assez entraînant, mais c'est surtout, disons, une affaire de jeunes dont on doit vite se défaire à mesure que l'âge avance et qu'il faut s'occuper des choses sérieuses. Écoutez, c'est interprété par le philosophe Olivier Martineau.
La philosophie, Socrate, est certainement pleine de charme lorsqu'on s'y adonne modérément dans la jeunesse. Mais si l'on s'y attarde plus qu'il ne faut, c'est la ruine qui vous attend. Car si bien doué qu'on soit, quand on continue à philosopher jusqu'à un âge avancé, on reste nécessairement neuf dans tout ce qu'il faut savoir, si l'on veut être un honnête homme et se faire une réputation. Et en effet, on n'entend rien aux lois de l'État et au langage qu'il faut tenir pour traiter avec les hommes dans les rapports privés et publics. On n'a aucune expérience des plaisirs et des passions, en un mot, des caractères des hommes. Aussi, lorsqu'on se mêle de quelque affaire privée ou publique, on prête à rire. De même que les hommes politiques, j'imagine, lorsqu'ils se mêlent à vos entretiens et à vos disputes, se couvrent eux aussi de ridicule. Il est beau d'étudier la philosophie dans la mesure où elle sert à l'instruction. Il n'y a pas de honte pour un jeune garçon à philosopher. Mais lorsqu'on continue à philosopher dans un âge avancé, la chose devient ridicule, Socrate. Et pour ma part, j'éprouve à l'égard de ceux qui cultivent la philosophie un sentiment très voisin de celui que m'inspirent les gens qui balbutient et font les enfants. J'aime la philosophie chez un adolescent, cela me paraît séant et dénote à mes yeux un homme libre. Mais quand je vois un homme déjà vieux qui philosophe encore et ne renonce pas à cette étude, je tiens Socrate qu'il mérite le fouet.
Calliclès ici se fait le porte-parole de toutes ces personnes qui, vous avez dû en rencontrer, Fulcran Tesserin, lorsqu'il rencontre un philosophe, sinon, mais à quoi sert la philosophie finalement? Est-ce que c'est pas une perte de temps? Qu'est-ce que vous répondez à Calliclès ici? Vous? Et qu'est-ce que Socrate répondra à cette objection?
Bon, moi et Socrate répondrions à Calliclès, mais qu'est-ce que c'est que l'utile? Qu'est-ce que c'est qui est utile?
Ah bah lui, il vous dirait la politique, quelque chose de s'engager dans la cité.
S'engager dans la cité, savoir se défendre au tribunal, puisque c'est ça qui va arriver aussi dans le texte que vous avez lu. Socrate annonce Calliclès ne sera pas en mesure de se défendre contre les accusations qui seront portées contre lui. Donc il va être condamné et voilà à quoi l'a conduit la philosophie. Triste destin et triste résultat. Évidemment, le discours de Calliclès... Alors je ne crois pas que le discours d'ailleurs de Calliclès soit simplement l'écho de cette opinion assez répandue que la philosophie est un discours vain et inutile. Calliclès articule cette position à d'autres points de vue qui sont assez forts. Je crois que chez Calliclès, il y a d'abord la valorisation de la nature par rapport à la loi, et la loi se trouve être, de ce point de vue, du côté du logos, du discours. Et donc, il faut valoriser la nature, il faut valoriser l'action. Hein. Les hommes sont ambitieux, les hommes sont animés par une volonté de puissance. Et il faut satisfaire cette volonté de puissance. Voilà ce que dit Calliclès. Et donc tout doit obéir à cette logique. Et donc la philosophie pour Calliclès est utile dans la mesure où elle donne les armes de cette volonté de puissance. Où elle donne les moyens à cette volonté de puissance de s'accomplir. Hein, de faire, comme il le dit, quelque chose de libre et de grand. Et non point comme fait Socrate et discuter dans un coin avec trois adolescents. Ce sont les expressions qu'il emploie. Alors, la réponse de Socrate à ce défi de Calliclès, elle est double. D'abord, il va essentiellement réfuter les grandes thèses de Calliclès. Il va pas tellement réfuter la question de l'âge de la philosophie. Et cette réfutation, elle arrive dans d'autres dialogues, disons. pourrait-on dire. Hein. Mais c'est pas tellement dans le Gorgias qu'on la trouve. Alors, je crois que si on veut savoir pourquoi, quand même, la philosophie aux yeux de Socrate est utile, et pertinente, et pourquoi est-ce qu'elle est non seulement une préoccupation digne de la jeunesse, mais une préoccupation digne de tout âge, ben, tout simplement parce que la philosophie interroge l'utile, interroge ce qui est le moyen du bonheur. Et s'il y a bien un âge où il faut poser cette question, c'est celui de la jeunesse. C'est le moment où on est à la croisée des chemins, où on est confronté à la pluralité des possibles. Il faut prendre des décisions. Et donc, il faut un examen préalable hein, pour savoir quelle est la vie droite. Hein. D'ailleurs, dans l'apologie de Socrate, Socrate dit lui-même devant ses juges qu'une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue. Donc, si l'on veut vivre, autant bien vivre. Et pour bien vivre, il faut d'abord philosopher. Voilà en substance la réponse que l'on peut apporter au défi de Calliclès. Alors, est-ce que cette nécessité de philosopher est de tout temps et là, on pourrait dire que la réponse est un peu ambiguë, parce que il se trouve que dans les dialogues, de fait, les interlocuteurs privilégiés de Socrate sont des jeunes gens, hein, sauf quelques exceptions sur lesquelles peut-être on reviendra. Donc, il y a bien une priorité de la jeunesse pour Socrate et pour Platon. Peut-être faut-il y voir le fait que c'est le moment où l'esprit est en formation et où les orientations finalement décisives de l'existence se prennent. Donc c'est le moment crucial.
Mais ce dialogue avec Calliclès est intéressant. Est-ce qu'il est représentatif aussi d'un état d'esprit de la société dans laquelle se trouve Socrate ? Puisque je pense notamment à l'oraison funèbre de Périclès relatée par Thucydide, dans laquelle on trouve cette citation de dire, oui, il faut philosopher, mais modérément.
Modérément.
Il y a quand même cette idée que la philosophie, certes indispensable à l'éducation, peut-être même que Calliclès ne dirait pas indispensable, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de honte à philosopher, mais bon, pourquoi pas, mais c'est l'excès de philosophie qui nuirait à l'individu politique, au sens propre
du
terme.
Je dirais de manière historique, le procès qui a été fait à Socrate, et que Socrate lui-même ne s'est pas engagé en politique. De ce point de vue, ce fut un mauvais citoyen. Alors, à cette objection, il a répliqué en disant « Mais non, j'ai fait mon devoir, je suis allé à la guerre quand il fallait aller à la guerre, et c'est vrai que je n'ai pas tellement traîné dans l'Assemblée, parce que de toute façon, à l'Assemblée, il est impossible de discuter de façon sérieuse, on a affaire à un démos irritable qu'il faut flatter si l'on veut persuader. » Donc, son objectif à lui, c'est de découvrir la vérité, et le contexte, tant de l'Assemblée que du tribunal, ne permet pas une recherche équilibrée de la vérité. Alors, après, il y a évidemment l'idéal de la païdéia grecque, tel que Périclès le défend dans son oraison funèbre, et tel que Calliclès y fait écho, c'est évident. Et cet idéal de la païdéia grecque, c'est ce que représente Isocrate, par exemple.
Païdéia, dites-nous.
Éducation. Voilà. Hein, l'éducation. L'éducation grecque. Eh bien, évidemment, il faut faire un peu de philosophie, mais c'est une philosophie qui est réduite à son statut ornemental, pourrait-on dire. Donc c'est avoir un peu des grâces dans l'esprit, mais ce n'est que cela, et ce qui compte effectivement c'est l'art de la parole en public. Alors si la philosophie, par l'habileté qu'elle cultive, permet ensuite d'aller exercer cette parole face à un public, alors elle est fondamentale, elle est utile. Mais si elle consiste à se retrancher de la cité, alors pour cette païdéia, pour Périclès, pour Calliclès, elle est évidemment dangereuse. En tout cas, il faudrait la modérer. Hein, il faut savoir philosopher avec modération. Voilà.
Il arrivait toujours un moment dans l'enquête où le commissaire Maigret avait besoin de faire le point. L'état de bien-être opaque dans lequel le mettait la digestion était favorable à la libre association de ses pensées. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles ?
C'est juste que dans tous les Maigrets, il a besoin de faire le point.
Et alors, quel est le problème ?
Non, c'est juste que c'est Simenon qui est complètement paumé dans son histoire et il écrit au fil de la plume et du coup il s'en sort plus et c'est lui qui a besoin de faire le point.
Simenon est un grand écrivain, il sait très bien ce qu'il fait.
Non, mais c'est un grand écrivain, mais enfin, les Maigrets, il les écrivait en une semaine, surtout dans les années 60. Donc, regarde comment c'est fichu.
Mais c'est très bien fichu.
Non, mais écoute les dialogues, tu vois bien qu'il tire à la ligne.
Si tu méprises ce que tu fais, tu n'arriveras jamais à rien.
Non, mais je fais ça pour t'aider. Hein. J'ai le droit d'avoir un point de vue.
Qu'est-ce qui t'autorise à regarder Simenon de haut ? Tu as fait quoi ?
J'ai rien fait, je méprise pas Simenon. Je vois quand il truque, c'est tout.
Il truque.
Oui, par contre, j'ai le droit de mépriser la télévision et considérer que c'est un outil d'abrutissement des masses.
Les grands mots, tu répètes ce que tu lis dans le journal. Apprends d'abord à écrire. Et ensuite, tu pourras y mettre tous les jugements à l'emporte-pièce que tu voudras.
Simon fait ça par-dessus la jambe, toi tu les adaptes à toute vitesse.
Mais c'est faux.
C'est tourné par des réalisateurs qui cachetonnent.
Je ne peux pas te laisser dire ça.
Les gâteaux Jean-Richard, depuis son accident de voiture, on peut à peine lui faire dire une réplique en entier.
Si tu penses ça, si c'est une telle torture, tu n'as qu'à laisser tomber.
Tu sais très bien que j'ai raison et t'es de mauvaise foi.
Je suis parfaitement de bonne foi. Et tu as tort.
Je pense que tu t'es rendu compte que les très jeunes gens, lorsqu'ils goûtent pour la première fois aux dialogues argumentés, en font mauvais usage, comme s'il s'agissait de jeux d'enfants. Ils y recourent sans cesse dans le seul but de contredire, et en imitant ceux qui les réfutent, ils en réfutent eux-mêmes d'autres, se réjouissant comme de jeunes chiens à tirer et à mettre en pièces par la parole ceux qui se trouvent dans leur entourage. Dès lors, lorsqu'ils ont eux-mêmes réfuté beaucoup de gens et lorsqu'ils ont été réfutés par plusieurs, ils basculent avec une brutale rapidité dans le scepticisme à l'endroit de ce qu'ils croyaient auparavant. Et compte tenu de cela, justement, ils deviennent eux-mêmes, comme tout ce qui touche à l'exercice de la philosophie, objet de mépris de la part de tous les autres. Pour sa part, un homme plus âgé ne consentira pas à participer à pareil délire. Il cherchera à imiter celui qui désire dialoguer afin d'examiner le vrai plutôt que celui qui s'amuse à contredire pour le simple plaisir du jeu. Enseigner la philosophie ou l'art d'accoucher, dirait Socrate, à la jeunesse, représente un danger, fulcrant Tesserin, un danger que pointe notamment Socrate dans ce texte à l'extrait de La République, c'est que les jeunes gens fassent un mauvais usage de ce que Socrate leur enseigne, qu'ils en viennent à tordre les arguments de manière erronée, et de ce fait s'éloignent du vrai. L'extrait que nous avons entendu du film d'Olivia Assayas Après mai, qui illustre, alors selon les points de vue, soit la dérive d'un jeune homme qui utilise mal les arguments, soit au contraire peut-être celui qui a tout compris alors que la personne plus âgée se refuse à le reconnaître, montre bien l'ambivalence et donc le danger potentiel de se servir de la jeunesse comme matière première à modeler pour aller vers la philosophie.
Oui, tout à fait. Et je crois que, quand vous parlez d'ambivalence, on voit le deuxième aspect. Tout à l'heure, du problème que pose la jeunesse pour Platon. Tout à l'heure, nous avons vu pour quelles raisons la jeunesse est le public privilégié de Socrate. Nous avons vu également le reproche de Calliclès à Socrate. Et là, nous voyons maintenant que ce reproche est finalement a un sens sensé. Sensé pourquoi ? Parce que il pointe quelque chose qui, dans la jeunesse, est susceptible de renverser le discours philosophique. Il y a dans la jeunesse, je dirais, un tempérament de chien fou, hein, ou de jeune chien fou. C'est du reste la métaphore qu'utilise Platon. Et elle se saisit des arguments, elle est prise par ce vertige argumentatif qui lui procure une forme d'ivresse, et qui, d'ailleurs, se solde par une gueule de bois. Ces jeunes gens qui sont tout à ce plaisir de réfuter, de composer des paradoxes, de mettre à mal l'adversaire, au bout d'un certain temps, sont pris d'une forme d'écœurement, de lassitude à l'égard du logos.
Et ça fait naître... Ils
plongent dans le scepticisme. Et ça fait naître ce que Platon appelle aussi la misologie. La haine
voilà,
ce qui est
l'ennemi numéro un pour Socrate.
L'ennemi numéro un. C'est-à-dire que du coup, évidemment, alors là, on retrouverait par exemple Calliclès, c'est-à-dire une apologie de l'action. Si la parole nous emmène partout et nulle part, si elle peut comme cela renverser toutes les positions, à ce moment-là, pourquoi encore lui faire confiance ? Pourquoi faire confiance au logos argumentatif ? Vivons vraiment, c'est-à-dire agissons au lieu de parler. Ça, c'est Calliclès, du moins c'est une certaine lecture de Calliclès possible. En tout cas, c'est un réflexe que l'on peut voir dans la jeunesse. Et d'où, d'ailleurs, le reproche d'inutilité. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Platon répond à la question qui lui a été posée dans La République. Mais comment convaincre les citoyens d'accepter l'autorité du roi philosophe ? Comment les convaincre ? Ils ont eu le spectacle tout inverse de jeunes gens formés par Socrate qui sont devenus des démagogues, qui sont devenus même des sophistes. Et donc, finalement, l'enseignement de Socrate n'est peut-être pas aussi bon qu'on le pense. Et pour répondre à cette possibilité d'un mauvais usage de la philosophie à cause du tempérament impétueux de la jeunesse qui se saisit des arguments et se plaît à les tordre et à les faire servir à toutes sortes de fins, pour répondre à ce danger, c'est très étrange, mais dans la République, Platon va dire « Ah ben, il faut que les jeunes gens attendent. Il faut attendre. Il faut attendre 30 ans pour commencer. »
Avant de devenir véritablement philosophe.
Exactement. Oui. Il faut attendre 30 ans pour entrer dans la dialectique. Il faut être un peu rassis. Parce que sinon, évidemment, on cède à cette tentation.
Voilà. Donc d'un côté, ne pas commencer trop jeune, sinon on cède à la tentation du scepticisme. Enfin, on risque d'y tomber. De l'autre, ne pas attendre trop longtemps non plus, de peur d'être tellement ancré dans les habitudes qu'on ne soit plus du tout réceptif au discours philosophique. Voilà. Donc en fait, on a quoi? 2-3 ans? C'est un créneau assez restreint pour devenir philosophe.
La République est, de ce point de vue, un dialogue un peu singulier. Je crois qu'il tranche sur les dialogues qui précèdent, qui sont des dialogues où le personnage de Socrate, est un personnage fondamentalement démocratique au sens où il discute avec n'importe qui. Alors évidemment, il choisit plutôt ses interlocuteurs beaux, jeunes et intelligents. Mais en tout cas, il n'a pas de scrupule à parler avec un jeune visiteur qu'on vient lui présenter en lui disant que c'est quelqu'un qui a une excellente réputation. Et donc à ce moment-là, son âge n'est jamais un obstacle. Dans la République, c'est un petit peu différent. Parce que justement, il essaie de répondre aux problèmes soulevés par laquelle et donc, du coup, il faut qu'il y ait d'abord une sélection. C'est comme ça, dans la République, on peut s'en réjouir ou on peut le condamner. Il faut qu'il y ait une sélection, il faut choisir ceux qui ont un bon naturel, d'abord. Et puis ensuite, il faut les entraîner. Et on va les entraîner à la recherche scientifique, à la connaissance scientifique. Ils vont faire beaucoup de mathématiques pendant 10 ans. Et après, à l'âge de 30 ans, là, ils vont faire de la dialectique. Parce qu'on est sûr que l'usage qu'ils feront du logos ne sera pas un usage perverti. On l'espère. On l'espère.
Mais est-ce que cette position platonicienne ne corrobore pas justement ce que je disais en début d'émission, cette attitude assez fréquente à l'égard de la jeunesse, où on désigne finalement par jeunesse une certaine classe d'âge dont on a du mal à définir les traits vraiment de manière précise et qui correspond plus à un lieu commun qu'à une réalité, puisque finalement, bien que vous écoutez Fulcran Tesserin, pour bien philosopher, il faut peut-être être jeune, mais il faut surtout avoir le bon tempérament, le caractère qui nous rend réceptif à la maïeutique socratique. Et c'est pas forcément une histoire d'âge. Finalement, la dernière jeunesse, on met tout simplement la période propice à être formé philosophiquement.
Alors, quand vous dites que ce n'est pas une histoire d'âge, on pourrait dire en effet que la relation est dans un double sens. La philosophie s'adresse à la jeunesse parce que la jeunesse est ce moment crucial et aussi parce que la jeunesse a ce tempérament qui fait qu'elle peut se saisir du logos et le développer jusqu'au bout, au risque parfois de le renverser et d'introduire de la confusion et de jeter dans la perplexité les auditeurs. Il faut aussitôt ajouter que la philosophie maintient cette jeunesse, conserve la jeunesse. C'est-à-dire qu'en philosophant, on conserve ce goût de la discussion et ce goût de l'échange dialectique. Regardez Socrate. Socrate est âgé dans tous les dialogues et a un sens. Il est perpétuellement jeune. Puisqu'il est toujours ce jeune chien fou désireux d'aller à la rencontre des visiteurs et d'échanger avec eux, de discuter avec eux, etc. Pourquoi ? Parce qu'il a gardé de sa jeunesse ce désir d'interroger et de s'interroger.
Donc voilà. Pour rester jeune, il faut apprendre à philosopher.
En un sens. Donc la philosophie a besoin de la jeunesse, mais la jeunesse a besoin de la philosophie pour rester jeune.
Je sens au fond de mon cœur tant de désirs qui manquent. Je sens au fond de mon cœur mille choses qui me tentent. Oui, je veux me saouler à la vie. Je veux vivre car je suis jeune. Je veux faire toutes les choses qu'il ne faudrait pas faire. Je veux faire toutes ces choses même si je le payais cher. Oui, je veux me saouler à la vie. Je veux vivre car je suis jeune. Je veux vivre la nuit. comme les autres vivent le jour. Je veux vivre la nuit, je veux goûter l'amour. Oui, je veux me saouler à la vie, car je suis jeune. Maman, ne pleure pas, tu sais bien que je t'aime. Maman, ne pleure pas, c'est la vie qui m'entraîne. Je sens au fond de mon cœur tant de désirs qui montent. Je sens au fond de mon cœur mille choses qui me tentent. Oui, je veux me saouler à la vie, je veux vivre car je suis jeune. Tous ces braves petits bourgeois avec leur visage pâle qui ne comprennent pas moi, je m'en fous pas mal, car je veux me saouler à la vie, je veux vivre car je suis jeune. Je sais bien qu'un beau jour, mes désirs seront morts. Je sais bien qu'un beau jour, je dirai, j'avais tort. Mais je veux me saouler à la vie, je veux vivre car je suis jeune. Oui, je veux me saouler à la vie, je veux vivre car je suis jeune. Oui, je veux me saouler à la vie, je veux vivre car je suis jeune.
Voilà, vous aussi, si vous voulez rester jeune, eh bien, vous avez deux possibilités. Soit écouter Steph, le chanteur de ce que nous sommes en train d'écouter, soit philosopher, puisque Socrate est en train de nous l'apprendre par le truchement de Fulcran Tesserin, notre invité aujourd'hui. Eh bien, pour rester jeune, il suffit de philosopher. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h26.
Tu t'appelles Esther et t'es dans la classe de ma sœur. Paul.
Je sais. Tu crois que j'ai pas remarqué que tu me suivais?
Ah si, je crois que t'as remarqué. J'arrête pas de te manger des yeux.
Je fais toujours cet effet-là.
Pourquoi?
Parce que je suis exceptionnelle. Je suis pas comme tes connasses de copines. Bla 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 bla. Je te fais peur. Hein.
Oui. Non.
Tu trouves que je suis belle?
Ah ouais, je trouve que t'es belle. Bien sûr, ça me fait un choc physique chaque fois que je te vois.
Moi, je me trouve pas belle. Mais j'ai un beau cul quand même.
Je trouve que t'as le cul le plus renversant de tout le lycée.
Quand t'es à la sortie du lycée, tu regardes d'abord le cul de toutes les filles et tu regardes notre visage après.
Non, j'arrive à regarder ton derrière et tes yeux en même temps. Et tes seins aussi.
Ah.
Et il paraît que t'es pas très libre, que t'as trois maris.
Ouais, je suis pas mariée.
Et puis tu sors avec le mec du foot aussi.
Oui.
Il est super beau.
Ouais, je l'aime.
Ça devient de plus en plus difficile. J'ai pas de conversation. Je suis pas très beau. Je fais pas de blagues. Je sais pas comment je vais m'en sortir.
Oui.
S'il est bien dirigé par celui qui le dirige, le jeune homme n'aimera qu'un seul corps. Et alors, il enfantera de beaux discours. Puis il constatera que la beauté qui réside en un corps quelconque est sœur de la beauté qui se trouve dans un autre corps. Et que, si on s'en tient à la beauté de cette sorte, il serait insensé de ne pas tenir pour une et identique la beauté qui réside dans tous les corps. Après quoi, c'est la beauté qui se trouve dans les âmes qu'il tiendra pour plus précieuse que celle qui se trouve dans le corps. En sorte que même si une personne ayant une âme admirable se trouve n'avoir pas un charme physique éclatant, il se satisfait d'aimer un tel être, de prendre soin de lui, d'enfanter pour lui des discours susceptibles de rendre la jeunesse meilleure. De telle sorte, par ailleurs, qu'il soit contraint de discerner la beauté qui est dans les actions et dans les lois, et de constater qu'elle est toujours semblable à elle-même, en sorte que la beauté du corps compte pour peu de choses à son jugement. Disons-le clairement, Fulcran Tesserin, ce qui intéresse Socrate dans la jeunesse n'est pas simplement la nature du tempérament propice à philosophie, c'est aussi la beauté de ces corps magnifiques qui se déploient devant lui dans le Charmide ou dans d'autres dialogues. Il est effectivement amoureux des jeunes corps, des jeunes hommes. Mais, alors, tour de passe-passe ou bien attitude philosophique par excellence, ses propres textes viennent justifier cette attitude puisqu'on apprend en lisant Platon que la beauté, loin d'être secondaire, la beauté et donc l'amour, loin d'être secondaire dans le travail philosophique, est au contraire une première étape qui, là pour le coup, est souvent identifiée à la jeunesse, puisque la beauté, en tout cas chez Socrate, se trouve par excellence dans la jeunesse.
Oui, oui, oui. Alors il faut bien comprendre, il y a deux choses dans le texte que vous avez lu. Il faut bien comprendre que...
Un extrait du banquet,
oui, hein, je le précise. Dans le banquet, On est surpris de lire ce texte qui fait une sorte de gradation de l'amour selon ses objets et cette beauté qui se retrouve donc à des niveaux différents. D'abord un corps, ensuite des corps. Vous remarquerez d'ailleurs le pluriel. Il y a ce passage par la multiplicité qui est important. On n'est pas simplement dans un corps, mais il faut passer par plusieurs corps. Ensuite les occupations, puis les âmes. Et à chaque fois, on retrouve l'unité qui détermine ces corps ou ces âmes ou ces occupations comme belles. Alors, pour le dire en un mot, je crois que ici, ce qui est important à saisir, c'est que la beauté définit pour Platon le fait d'être complètement déterminé, d'être identique à soi-même, hein, de ne pas avoir d'écart entre son essence et son apparence. Hein. Et qu'est-ce que c'est qu'un beau corps ? C'est un corps qui est bien proportionné. Qu'est-ce que c'est qu'une occupation belle ? C'est une occupation qui est réglée. Donc, entre son essence et ce qu'elle manifeste, il y a adéquation, en tout cas. Et là, figure la beauté. Je crois, en tout cas, on peut lire le texte de ce point de vue-là. Et alors, il y a un deuxième aspect du texte, qui est aussi important à souligner, c'est que la beauté rend fécond. C'est-à-dire que, dans le texte que vous avez lu, celui qui est sensible à la beauté devient... riche de discours, hein, de discours qu'il adresse à la jeunesse,
oui.
Et qu'il rend, et cette jeunesse, il la rend sensible à la beauté. Il la rend sensible à la beauté, c'est-à-dire à la découverte des choses qui sont en adéquation avec leur essence, qui sont parfaitement déterminées, qui sont pleinement ce qu'elles sont et qui ne sont que ce qu'elles sont. Voilà. Et donc après, pourrait-on dire qu'est-ce que c'est que la philosophie ? Ben, c'est le souci de la parole exacte. De la parole qui est en parfaite adéquation avec la vérité.
Mais comment passe-t-on du désir d'un corps, comme on en a eu un exemple dans l'extrait de « Trois souvenirs de ma jeunesse », le film d'Arnaud Desplechin sorti l'an dernier en 2015, où, donc on a cet adolescent qui tombe amoureux d'une adolescente et qui lui parle de son corps et du désir qu'il éprouve pour elle. Elle-même d'ailleurs a plusieurs maris, dit-il, ce qui est intéressant pour la multiplicité, puisque vous en parliez à l'instant. Comment passe-t-on donc du désir pour le corps d'un autre au désir de philosopher ? Comment passe-t-on du corps à l'âme ? Le chemin n'est pas direct.
Pourquoi est-ce que la jeunesse, c'est l'époque de la beauté ? Parce que c'est le moment où le corps n'est pas encore défait.
Pas toujours, mais
c'est le moment où le corps n'est pas encore défait. Le corps est
défait.
Défait par le temps qui passe.
Il y a aussi une beauté du temps qui passe.
Certes. Mais en tout cas, du point de vue socratique, le moment de la jeunesse est privilégié parce que c'est le moment où le corps est en adéquation avec lui-même.
Donc l'apparence compte, finalement, chez Platon.
Mais évidemment. Mais évidemment, et c'est justement le privilège de la beauté que de se manifester telle qu'elle est dans l'apparence. C'est ce qu'il dit dans le fait.
Mais on connaît la méfiance de Socrate
oui,
à l'égard des
exception.
Apparences, c'est ça qui est surprenant.
Il y a une exception, c'est la beauté. Et la beauté des corps, elle est exemplaire dans la jeunesse, parce que quand on a affaire à des jeunes gens, on a affaire à des gens dont le corps est en harmonie avec lui-même, hein, bien proportionné, bien réglé. Hein, et le temps qui passe... les désordres de l'âme introduisent dans le corps un désordre qui se manifeste dans son apparence.
Mais là encore, ça semble contradictoire avec le fait d'apprendre à philosopher un peu plus tardivement pour avoir la maturité nécessaire pour devenir philosophe.
Ah
ce qui fait qu'une âme philosophe sera plus à même d'introduire de l'harmonie dans son corps qu'un jeune homme fougueux et qui tombe dans le scepticisme et qui du coup va avoir un rapport au corps déréglé.
Ah, oui, mais là on est en train de réfléchir du point de vue du spectateur. C'est-à-dire... celui qui contemple la beauté trouve dans la beauté une motivation pour philosopher.
Mmh.
Oui. Donc ce qui est important, c'est qu'il observe une beauté qui est extérieure à lui-même, hein, et qui va lui donner le goût de ce que j'appelle la détermination, hein, le goût de ce qui est parfaitement en adéquation avec soi, hein, aussi bien dans les choses que dans sa parole. Bon. Et ce point de vue du spectateur donc, est à distinguer, je dirais, d'un autre point de vue qui serait, au fond, comment être beau, hein, et comment rester beau au cours de la vie. Et là, vous avez raison de dire que ce n'est pas forcément le privilège de la première jeunesse. C'est en effet le fruit d'une éducation, probablement que pour Socrate et pour Platon, le bon naturel philosophe bien éduqué va conserver sa beauté physique, si du moins il en a une. On sait que Socrate, par exemple, était laid. Mais ça ne l'empêchait pas d'admirer la beauté, parce qu'il voyait dans la beauté quelque chose qui lui rappelait l'intelligibilité. Voilà. Et donc, il faut, pour philosopher, être entouré de beauté. Si vous n'êtes pas entouré de beauté, vous ne pouvez pas philosopher. Donc, vous commencez à philosopher quand vous êtes entouré par la beauté, et là où se trouve la beauté, c'est d'abord dans la jeunesse, même si elle peut se trouver ailleurs.
Et la beauté est-elle autre chose que le désir ?
Ah ben, la beauté, c'est ce qui me fait naître le désir. Mais le désir de quoi? Le désir de ce qui est véritablement. Si la beauté, c'est l'adéquation avec soi, c'est la perfection, alors évidemment, pour Platon, ça conduit, ça devrait conduire en tout cas, à découvrir ce qui existe vraiment. Ce qui existe vraiment ne peut être que beau, parce que ce qui existe vraiment, c'est ce qui est parfaitement en accord avec soi, c'est ce qui coïncide avec son essence.
Donc dans le cas de la beauté, il n'y a pas une opposition entre l'apparence, non, l'extériorité
c'est le moment,
et le monde des idées.
C'est
oui,
le seul moment dans, je dirais, dans l'expérience humaine que on découvre quelque chose qui dépasse l'aspect trompeur de l'apparence. Parce que précisément, dans la beauté, il y a une apparence qui est en adéquation avec l'essence. Un corps beau, un corps harmonieux qui se donne à voir, c'est un corps qui est parfaitement proportionné. Et donc, qui, dans une certaine mesure, fait voir les rapports mathématiques qui le constituent.
Le jeune homme confie toujours le commandement de son âme au plaisir qui surgit soudainement, comme s'il était soumis au destin, jusqu'à ce qu'il en soit rassasié. Puis il s'abandonne à un autre, et cela sans en mépriser aucun, mais en les nourrissant de manière égale. Si on se risque à lui dire que certains plaisirs découlent de désirs nobles et bons, alors que d'autres naissent de désirs mauvais, et qu'il faut cultiver et valoriser les premiers, réprimer et dompter les seconds, dans toutes ces circonstances, il hoche la tête en signe de dédain. Pour lui, selon ce qu'il prétend, ils sont tous pareils et doivent être considérés de valeur égale. Il passe ses journées à satisfaire sur cette lancée le désir qui fait irruption. Aujourd'hui, il s'enivre au son des flûtes. Demain, il se contente de boire de l'eau et se laisse maigrir. Un jour, il s'entraîne au gymnase. Le lendemain, il est lascif et indifférent à tout. Et parfois, on le voit même donner son temps à ce qu'il croit être la philosophie. Souvent, il s'engage dans la vie politique et se levant sur un coup de tête, il dit et fait ce que le hasard lui dicte. S'il lui arrive d'envier les gens de guerre, le voilà qui s'y implique. S'agit-il des commerçants, il se précipite dans les affaires. Sa vie ne répond à aucun principe d'ordonnancement, à aucune nécessité. Au contraire, l'existence qu'il mène lui semble mériter le qualificatif d'agréable, libre, bienheureuse, et il vit de cette manière en toutes circonstances.
C'est au livre 8 de la République de Platon que l'on trouve ce portrait de l'homme égalitaire, démocratique, en jeune, soumis à ses passions, vivant dans l'indétermination. Ce qu'il faut savoir, pour bien comprendre ce texte Fulcrant Tesserin, c'est qu'à travers ce portrait du jeune homme indécis, indéterminé, donc forcément malheureux, même s'il croit lui-même être heureux, il faut y entendre une dénonciation, une critique de la démocratie elle-même, par Socrate, par Platon en tout cas, dans ce texte.
Oui, parce qu'il y a une accointance secrète entre la démocratie et la jeunesse. Et ça fait partie, j'allais dire, de l'ambivalence dont on a parlé tout à l'heure. On vient de voir en effet comment la jeunesse pouvait être, pour le spectateur, l'occasion de philosopher par la beauté qu'elle met sous ses yeux. On voit comment la jeunesse est au contraire la possibilité, pour le jeune homme lui-même, de s'égarer et de se perdre. Vous avez dit que c'est le temps de l'indétermination. En effet, c'est le moment du choix, c'est le moment où la pluralité des possibles s'ouvre à lui. Et donc, il caresse toutes ces possibilités, tous ces projets, les uns après les autres. Il les agite dans sa tête et il est pris par cette jouissance, finalement, de pouvoir tout faire. La jeunesse, c'est le moment où on croit que l'on peut tout faire. Et donc, c'est aussi le moment où on soutient que, finalement, non seulement tous les choix sont possibles, mais tous les choix sont équivalents. Enfin, en tout cas, on peut avoir une certaine tendance à le penser. Et c'est là qu'on voit combien la jeunesse est en accord avec la démocratie, ou en tout cas avec les principes démocratiques tels que Platon les conçoit. Parce que la démocratie, c'est précisément le régime de l'égalité et de la liberté. C'est donc le régime qui stipule que tous les choix sont équivalents, qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire et qu'il n'y a pas d'élimination produire. Donc, le régime démocratique est un régime qui favorise la jeunesse, et réciproquement, la jeunesse s'accorde spontanément avec le régime démocratique. Et entre parenthèses, on peut trouver que le diagnostic de Platon est quand même transcendant, parce que, en dépit des différences qui séparent la cité grecque de l'époque contemporaine, on peut remarquer quand même un fort tropisme de nos démocraties pour la jeunesse. Hein, donc il y a là une sorte de...
Que vous expliquez comment, d'ailleurs?
Par les raisons que donne Platon.
Ouais.
C'est-à-dire que la démocratie, c'est le régime de l'indétermination, et la jeunesse, c'est le moment de l'indétermination. Donc les deux s'accordent.
Mais ce qui voudrait dire que ce sont les gouvernants eux-mêmes reconnaissent dans la jeunesse des traits qu'ils retrouvent dans l'exercice de leur propre métier, c'est ça ?
Ah, c'est pas forcément les gouvernants, c'est les gouvernés aussi. C'est l'ensemble de la population qui est séduite par cette idée d'échapper à toute détermination. Et de ce point de vue...
Mais en quoi c'est proprement démocratique, puisque pourquoi est-ce que la démocratie est un régime particulièrement indéterminé ?
Parce que c'est le régime de la liberté. Ah, pour Platon, hein, c'est le régime de la liberté. Mais la liberté chez lui doit s'entendre d'abord de façon négative, hein, comme le refus de la détermination, comme le refus d'avoir un certain nombre de caractéristiques définitoires. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, si la démocratie s'entend comme ce régime où les individus refusent toute détermination, on voit bien en quoi ça correspond anthropologiquement à l'âge de la jeunesse. Puisque la jeunesse, c'est le moment où la conscience de soi s'ouvre à la pluralité des possibles. Voilà. Et donc, on oscille entre les diverses possibilités, les divers chemins qui s'offrent à nous.
Donc la démocratie,
on ne veut surtout pas en choisir un qui nous impliquerait à renoncer aux autres. D'où la versatilité dont parlait Platon tout à l'heure.
C'est qu'il n'y a pas du tout d'usage sensé de sa liberté de choix dans la démocratie, c'est ça ?
Aux yeux de Platon, difficilement. Et ça tient au fait que il a une expression qui est assez curieuse. Il dit en gros que la démocratie est une sorte de grand bazar où on trouve tous les modèles, aussi bien les modèles anthropologiques que les modèles politiques. Hein. Et d'ailleurs, qui veut faire une enquête sur les différents paradigmes politiques n'a qu'à se rendre dans une démocratie parce qu'il pourra les voir, hein, il pourra les constater, les observer. Donc, alors pourquoi est-ce que la liberté implique forcément cette indétermination? Parce que l'accent premier de la liberté, c'est de donner au choix son amplitude maximum. Et pour que ce choix ait son amplitude maximum, il faut qu'aucun parti pris ou aucune possibilité ne soit privilégiée par rapport à d'autres. Donc on est dans une logique de l'indétermination pour Platon. Hein. Et en ce sens, je trouve qu'il y a évidemment, comme il le note, une convergence entre régime démocratique et jeunesse.
Comme si
la démocratie est en quelque sorte
était l'immaturité politique.
Avec un risque de réaction très brutal, puisque la démocratie amène à la tyrannie. Et la jeunesse, se lassant d'elle-même, se jette évidemment dans les bras du tyran.
Mais peut-on, de même que Socrate va choisir la jeunesse comme cible privilégiée de sa méthode philosophique, peut-il ou peut-on, est-ce que le philosophe peut éduquer la démocratie ou la société démocratique au même titre que Socrate éduque la jeunesse?
En un sens, oui, puisque c'est ce que disait Socrate au moment de son procès. Socrate dit « Je suis le seul vrai politique, bien que je n'ai jamais fait de politique, parce que je me suis entretenu avec qui que ce soit dans les rues d'Athènes. » Donc, Socrate, pour lui, reconnaît à la philosophie un rôle politique dans la démocratie. Hein, ce rôle d'éducation, mais ce rôle d'éducation qui passe sur la libre discussion, l'échange réfutatif. Hein. Platon, si on doit distinguer Platon de Socrate, Platon aurait une réponse un peu différente. Je crois que Platon, en tout cas si on lit La République et si on lit les lois, bah, dans une certaine mesure, c'est quelqu'un qui a choisi l'université. C'est-à-dire qu'il crée une institution qui éduque très progressivement les meilleurs individus à la philosophie en les retranchant de la cité et ensuite qu'il les replonge dans la cité, qu'il les fait redescendre dans la caverne, mais évidemment avec des positions de pouvoir et d'autorité. Et donc, je crois que la réponse platonicienne pourrait être distinguée de la réponse socratique, hein, sur l'usage possible de la philosophie comme éducation de la jeunesse dans un cadre démocratique. Platon refuse d'entrée de jeu le cadre démocratique, ce que ne refuse pas, a priori, Socrate.
Oui, il reste à savoir si l'activité philosophique telle que la conçoit Socrate est compatible avec toute forme d'engagement politique. C'est-à-dire que peut-être que les nombreux textes où Socrate décrit sa méthode philosophique, cette maïeutique, cette volonté de faire accoucher autrui, souvent le jeune homme en face de lui, d'une vérité, doit être cantonné à une relation inter-individuelle, de maître à élève, et qu'elle est incompatible avec le collectif au sens fort du terme.
Il y a trois personnages, pourrait-on dire, dans un dialogue socratique. Il y a Socrate, le répondant, et le public. Hein, faut jamais oublier le public. Hein. Il y a toujours un cercle d'auditeurs qui entend.
J'espère.
Oui. qui entend, qui ne participe guère, mais qui entend. Donc il y a déjà cet aspect politique, pourrait-on dire, en tout cas, qui dépasse le cadre d'un simple échange entre deux personnes. Maintenant, évidemment, ce n'est pas une entreprise politique au sens strict du terme, ce n'est pas une action sur la cité dans son ensemble, c'est une action sur une partie de la cité. Mais la partie peut être la meilleure, d'abord parce que c'est la jeunesse, et ensuite parce que Néanmoins, il faut reconnaître que Socrate s'entretient toujours avec des jeunes gens issus de la meilleure société. Donc appelé à exercer ensuite des responsabilités, ça c'est factuel.
Oui, mais ce qui est vrai, c'est que l'action de Socrate philosophant dans la cité va avoir des conséquences politiques énormes, finalement, c'est ça.
Dont il sera lui-même la victime, puisqu'il va être exécuté en raison de l'enseignement qu'il a dispensé. Mais ce qui prouve bien que son enseignement a une forme d'efficacité. En tout cas, une forme produit des effets, même si c'est peut-être pas ce que l'on souhaiterait.
Un dernier point, vous avez cité le dialogue des lois de Platon. Oui.
C'est son dernier dialogue.
Mais c'est aussi un des dialogues qui met en scène des personnages beaucoup plus âgés.
Voilà. C'est un drôle de dialogue.
On y trouve des vieux, pour le dire
exactement.
Autrement.
Exactement, on en trouve trois. Ce sont des vieillards qui parlent entre eux. Et ça revient constamment dans le dialogue. Comme si Platon savait à la fin de sa vie qu'il écrivait un dialogue de vieux pour les vieux. Voilà, c'est un peu étrange. Il y manque la jeunesse.
Un grand merci à vous, Fulcran Tesserin, d'être venu nous parler de Platon aujourd'hui. C'était un grand plaisir de faire cette rentrée en votre compagnie. La rentrée pour vous continue, puisque vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Poincaré de Nancy. Alors on vous souhaite une bonne rentrée, ainsi qu'à vos élèves.
Merci.
Et je renvoie à la lecture de vos deux ouvrages, Le Sophiste de Platon, un commentaire du dialogue de Platon qu'on trouve au PUF, ainsi que Langage et images dans l'œuvre de Platon toujours, aux éditions Vrin. La semaine sur la jeunesse continue pour nous. On se retrouve demain à 10h pour la deuxième émission consacrée au portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde en présence du professeur de littérature anglaise à l'université Paris-Sorbonne, Pascal Acquien. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h49. C'est l'heure de retrouver, ça fait bien longtemps que je n'avais pas dit cette formule, c'est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie pour ces deux minutes papillon. Bonjour à vous Géraldine.
Bonjour Adèle, ravie de vous retrouver, ravie d'entendre cette phrase.
De vous avoir à mes côtés, donc les deux minutes papillon continuent comme l'an dernier.
Toute cette année, l'actualité philosophique, essais, des festivals, etc.
Et pour cette première émission, vous avez concocté quelque chose, je crois.
Voilà, c'est la toute première biographie de ce penseur dont on va tout de suite entendre la voix.
Les gens particulièrement ceux qui ont moins de 40 ans, ne veulent plus s'identifier à leur travail.
Quoi de mieux que de commencer une nouvelle année scolaire et studieuse et laborieuse avec une telle phrase, toute petite phrase, mettant à l'image de son auteur. C'était en effet la voix d'André Gortz. Alors André Gortz, mi-philosophe, mi-journaliste, un métis inauthentique ou encore un type pas vraiment sérieux, c'est lui qui le disait de lui-même, et comme le rappelle Willy Gianinazzi dans la première biographie qu'il lui consacre aux éditions de La Découverte. Alors André Gortz, que l'on fait bien en revanche nous d'identifier au travail, en tout cas au problème que pose le travail à notre identité, avec cette question qui le taraude dans toute son œuvre, de la fin des années 40 jusqu'à sa mort, il y a bientôt 10 ans, en 2007. Qu'est-ce qui est produit par le travail? Qui? Quelle personne? Et pas qu'est-ce que le travail produit, c'est-à-dire quelle chose?
Je crois que tout homme, lorsqu'il arrive à un certain âge, est un individu fabriqué. C'est-à-dire qu'il est fabriqué non seulement par toute l'éducation qu'il a reçue et qu'il n'a jamais digérée, mais il est encore fabriqué par tout ce qui lui est arrivé dans sa vie et qu'il n'a jamais compris et qu'il a pourtant marqué.
Voilà donc ce qui nous fabrique, et c'est encore André Gortz qui le dit en 1958 alors qu'il fait paraître son premier livre. C'est une autobiographie au titre frappant, Le Traître. Aux événements marquants, il faut bien ajouter le travail qui s'impose aussi comme ce qui nous fabrique, même insensiblement, même involontairement. Mais alors comment le travail peut-il devenir ce à quoi on ne veut pas s'identifier, le lieu d'une traîtrise, d'une inquiétante étrangeté à soi? Cette menace, Aristote l'a soulevée déjà en clamant le travail comme devant être sa propre fin dans l'éthique à Nicomaque, mais à l'époque d'André Gortz, capitaliste, en demande d'égalité et d'écologie, cette menace est devenue réelle et tout son effort à André Gortz a ainsi été de renverser la perspective, c'est-à-dire de penser le travail comme une production de soi, son concept clé. Un effort qui se retrouve à travers ses textes, mais aussi à travers sa vie que l'on découvre, sa vie pas très sérieuse, passer à y chercher un sens, et un effort qui s'impose aussi à nous en ce jour de rentrée.
Il faut, et je m'y engage, je suis en campagne moi aussi, qu'on consacre une semaine à André Gortz cette année, Géraldine.
Il faut.
Puisqu'on en parle trop peu de ce philosophe.
Et déjà, on peut commencer par lire sa vie, sa biographie, c'est par Willy Gianinazzi et c'est aux éditions de La Découverte.
Merci beaucoup à vous Géraldine et merci à toute l'équipe des Nouveaux Chemins qui se compose cette année de Marianne Chassor, vous-même Géraldine évidemment, Antoine Ravon comme l'an dernier et de nouveaux arrivants, Ariane Mintz et Pierre Brossard que je salue, avec Nicolas Berger et Olivier Bétard que je salue également à la réalisation cette année et aujourd'hui à la prise de son, c'était Pierrick Monsigny. Les Nouveaux Chemins restent en direct tous les jours de 10h à 11h, enfin du lundi au vendredi de 10h à 10h53, mais vous pouvez nous retrouver à toute heure du jour et de la nuit en podcast. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site des Nouveaux Chemins, sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins, vous pourrez télécharger l'émission. Et puis rendez-vous également sur les réseaux sociaux. Les Nouveaux Chemins ont une page Facebook et un compte Twitter où nous relayons quotidiennement l'émission du jour ainsi que d'autres anecdotes philosophiques croustillantes. Allez, on se retrouve demain à 10h pour la suite de cette semaine sur la jeunesse, donc.